On a du mal à imaginer la force qu'il faut simplement pour rester en vie. On se bat contre son plus terrible ennemi, c'est-à-dire soi-même. On se bat toute la journée, juste pour ne pas faire de bêtises. C'est extrêmement grave. J'ai enterré mon père, et 3 ou 4 jours après, on a commencé les travaux de rénovation de l'exploitation. J'ai absolument pas eu le temps de faire mon deuil. Je voulais continuer à m'améliorer. Je voulais être à la hauteur de cet être cher qui était parti. Je voulais que mon père soit fier de moi, de ce que je suis. Je n'avais plus d'estime de moi. Je travaillais jusqu'à l'épuisement. Et puis il m'est arrivé un truc à l'étable. J'ai eu un problème avec un animal. C'était pas grand-chose, mais je l'ai ressenti comme une catastrophe. Et je me suis effondré. J'étais là, dans l'étable, et je pleurais comme un bébé. Ce jour-là, j'ai touché le fond. J'étais à la croisée des chemins, et j'ai décidé de me faire aider. C'était plus possible. J'en pouvais plus. Tous les jours, dès le matin, j'étais tellement angoissé que j'arrivais pas à me lever. C'est quelque chose qui vous trotte dans la tête sans arrêt. On ne peut pas s'empêcher d'y penser.
On ne peut pas se sortir de la dépression par la volonté, c'est la volonté elle-même qui est touchée. C'est ça, la dépression, la disparition des affects positifs et le fait d'être coincé sur une sorte d'émotion négative, que ce soit de l'angoisse, de la tristesse ou de l'irritabilité. En quelques jours, ça s'installe, ça peut être très brutal, donc le changement, il est plus visible. Mais quand ça s'installe de façon plus insidieuse, en fait, on abandonne petit à petit pas mal de nos routines, pas mal de nos loisirs. Chaque chose prise séparément paraît anodine. En fait, c'est le tout qui fait qu'on est en rupture, en fait, avec sa vie antérieure, et on s'isole. On ne prend pas en charge exactement de la même façon quelqu'un qui a une dépression légère, modérée ou sévère, voire sévère avec caractéristiques psychotiques, ou si c'est dans le cas d'un trouble bipolaire, ou si c'est un premier épisode, ou si c'est une récidive d'épisodes. Déjà, une grande différence qu'on peut faire, c'est la dépression chez les personnes qui ont un trouble bipolaire et les personnes qui ont un trouble unipolaire. Souvent, dans les dépressions unipolaires, on a une perte d'appétit. On peut avoir des gens qui perdent 10-15 kilos en un mois, soit plus de 5% de leur masse corporelle sur un temps très court. De l'autre côté, dans une dépression bipolaire, les personnes au contraire vont avoir tendance à prendre du poids, à manger plus, sans forcément de plaisir, mais avoir besoin de se remplir.
Et la dépression pour moi, c'est comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, on va dire. C'est comme ça que je le vois, puisque je suis bipolaire. À tendance plutôt dépressive. C'est comme ça que j'ai vécu la dépression, comme si je me transformais en coquille vide, dénuée de sentiments. Je pouvais même plus pleurer, je savais même plus pourquoi j'étais en dépression, et c'est ça le pire, c'est de pas comprendre pourquoi on est dans cet état. Et c'est ça la maladie en fait. J'arrivais plus à écouter de la musique, j'arrivais plus à travailler du tout, à fonctionner du tout. Et j'ai commencé à me mortifier dans cette espèce d'angoisse ici, que je ressentais là. On était à Berlin entre gens qui allaient prendre des pills tous les week-ends, mais qui avaient des problèmes avec le fait de prendre des médicaments. Mes amis pensaient bien faire de me dire « Arrête de prendre des médicaments, c'est ça qui t'a mis comme ça, etc. » Et je me suis laissée pour la première fois de ma vie, je pense, complètement influencée dans ce sens-là parce que j'étais tellement désespérée que je cherchais des explications aussi. J'étais persuadée que j'allais finir seule et dans la rue. Tout était noir et tout était défaitiste. Ma mère avait beau m'aimer, même ma famille était... J'ai quand même une famille aimante, tout ça. Je me disais, mais mes amis, il y a forcément un moment où ils vont laisser tomber, quoi. Et donc, je vais finir... je vais mourir dans la rue, quoi.
Il y a des gens qui ont peur de leur côté obscur. Ils ne peuvent pas comprendre qu'on puisse plonger dans la dépression. Pour eux, ça n'arrive qu'aux personnes faibles. Mais ce n'est pas vrai. Tout le monde a envie d'être heureux, surtout ceux qui sont déprimés. Ce sont même probablement ceux qui ont le plus envie d'être heureux.
« 17% des Allemands connaissent au moins une phase dépressive dans leur vie. Et chaque année, 8 à 9% des Allemands sont atteints de dépression. Potentiellement, tout le monde peut faire une dépression. Mais il y a aussi des facteurs génétiques qui entrent en jeu, et des facteurs biologiques. Certains neurotransmetteurs, c'est-à-dire les messagers chimiques comme la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine, ne se combinent plus correctement pour assurer le bon fonctionnement du cerveau.
Ça paraît assez intuitif maintenant de se dire que la dépression, elle pourrait se localiser dans le cerveau. Mais aussi le système immunitaire de façon plus générale. Et certains collègues qui parlent aussi du système digestif, du microbiote.
On sait qu'on fonctionne tous les deux par phase. Et qu'on peut s'entraider quand l'un de nous va pas bien.
Tout devient difficile. Je ne pouvais plus enjamber une simple branche. Mon champ de vision s'est réduit. J'avais l'impression de vivre dans un tunnel. Je ne mangeais plus, je ne pouvais plus me tenir debout. Et dormir, n'en parlons pas. Je restais 2 ou 3 heures comme ça dans une espèce de torpeur. Et quand le cerveau est privé de sommeil, il finit par se détraquer. C'est effrayant. Je me demandais ce qui allait se passer si ça ne s'arrangeait pas.
Quand elle va pas bien, ou qu'elle va très mal, c'est comme si elle n'était pas là. C'est toujours elle, mais elle n'est pas là. D'un côté, je sais que ça va s'arranger, parce qu'elle est déjà passée par des phases comme celle-là. Mais d'un autre côté, ça fait très mal de voir quelqu'un qu'on aime souffrir comme ça. On peut seulement la soutenir. Et ce seulement, ça a l'air de rien, mais c'est énorme, parce que c'est épuisant. On peut rien faire de plus. Parce que le seul moyen pour elle de s'en sortir, c'est de trouver elle-même sa propre voie.
J'ai contacté des cliniques et en général, il y avait 6 mois d'attente juste pour un premier rendez-vous. Je me disais que je ne serais plus là dans 6 mois.
Ja.
La musique, c'est important pour moi. Parce que dans le metalcore et dans tout le hardcore en général, on parle de mort, de maladie et de santé mentale. C'était comme un refuge pour moi. J'ai appelé le conseil familial de la région. C'est ma femme qui m'avait trouvé le numéro. J'y suis resté 2 heures et j'ai vidé mon sac. J'ai pleuré et tout est sorti. Je me suis rendu compte que ça m'avait fait du bien de dire tout ce que j'avais au fond de moi. Tout ce que je m'interdisais de raconter à ma femme parce que je voulais la protéger. Maintenant, je sais que j'ai eu tort. Parce que je la tenais à l'écart de tout ça. Elle savait qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Je lui disais toujours, je vais bien, ça va aller.
Profite du soleil. C'est une bonne idée, mais quand on en est incapable, c'est une phrase qui peut faire mal, parce qu'on se dit « Ouais, j'aimerais bien, je le faisais avant, mais là, je peux pas. » On s'entend souvent dire qu'il suffit de le vouloir pour s'en sortir. Mais on ne dirait pas ce genre de choses à un malade du cancer.
La maladie de mes filles, elle est entrée en matière assez brutalement. Elle a fait une tentative de suicide quand elle était au lycée. Et donc, voilà, force était d'admettre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est très dur, c'est très frustrant, parce que on ressent la douleur de la personne qu'on aime et on n'y peut rien, on ne peut rien y faire.
J'avais envie de rien, c'était horrible. Et en fait, il y a eu ce moment où ma mère voulait m'amener au centre d'accueil urgence psy à Sainte-Anne. Et donc, sur le coup, je disais, ah, mais non, je ne voulais pas. Elle a commencé à faire ses affaires pour partir, alors qu'elle devait partir le lendemain. Et ça m'a vachement choquée. Et donc, je dis, ok, on y va, vas-y, si ça te fait plaisir, on y va. Comme si, voilà, ça lui faisait vachement plaisir d'aller là-bas. Les gens ne s'en rendent pas compte, en fait, mais la personne qui est en dépression, elle ne va pas bien. Elle voit qu'elle rend les gens tristes autour d'elle, ça la rend encore plus triste. Et enfin, c'est tout le temps le cercle vicieux, quoi.
Mon frère m'avait dit, comment tu as fait? Moi, jamais j'aurais pu supporter tout ça. Ben, la question ne se posait pas. Il fallait le faire, donc ça s'est fait. Je me suis dit, bon, elle est vivante, on va faire avec ça. Ce qui me donne l'espoir pour Élise, c'est que justement, tout a été fait aussi rapidement que possible.
Il y a une phase aiguë de la maladie où là, la question, c'est pas celle de reprendre le goût de vivre, c'est déjà d'arriver à maintenir l'individu en vie, en fait. Il y a une période où les médicaments peuvent aider à passer un cap très important avant d'entamer des psychothérapies qui vont plutôt aborder le fond des choses pour arriver à éviter de faire une rechute, par exemple, ou pour consolider des éléments de fragilité, de vulnérabilité. Mais quand on est trop souffrant, on ne peut pas forcément attaquer tout de suite des choses qui demandent en fait une disponibilité d'esprit suffisante. guérir totalement à partir du moment où on a trouvé le traitement qui fonctionne. C'est 6 mois. Il faut essayer de le prendre à la bonne dose. Si on a l'impression que ça marche absolument pas, il faut le dire à son médecin. Et là, pourquoi pas vérifier la concentration plasmatique du traitement, vérifier qu'on ne l'a pas oublié trop souvent. Essayer de noter chez soi les transformations qu'on a vues sous traitement, qu'elles soient positives ou négatives.
On voudrait un traitement qui marche vite,
ouais,
et qui soit très efficace. Ouais. Et pour ça, essayer un autre antidépresseur comme ceux que tu citais, ça va nous prendre encore 4 à 6 semaines pour avoir une efficacité. Si jamais ça ne fonctionnait pas, il faudrait encore tester empiriquement un autre traitement.
On parle de quarantaine, cinquantaine de molécules. Hein. On peut combiner quasiment à l'infini entre elles. À côté de tout ça, il y a, si on reste dans les thérapeutiques biologiques, la neurostimulation.
Alors, le principe de la stimulation magnétique transcrânienne, c'est de venir stimuler une région cérébrale dont le fonctionnement est modifié dans la dépression. C'est la région au niveau préfrontal, ici à gauche, que l'on vient stimuler parce que cette région est hypoactive dans la dépression. Et donc on va faire des séances répétées pour permettre à cette région de mieux fonctionner et aux patients d'aller mieux. Donc c'est une technique thérapeutique qui peut être proposée pour tous les types de dépression, mais quand elles ont été résistantes à des traitements antidépresseurs, parce que c'est un traitement qui n'a pas l'autorisation en France, hors dehors de programmes de recherche.
On a tout un panel, et après, en fonction du patient qu'on a, on essaye de proposer la meilleure solution possible. La dépression, c'est, parmi les troubles psychiques, une des maladies qui se soigne le mieux.
Là, je suis à la clinique de Leonberg, qui soigne les maladies psychosomatiques. J'y suis pour 6 jours et j'ai un emploi du temps très serré. Il y a la distribution des médicaments, si on a un traitement, le petit déjeuner, les activités du matin, la thérapie de groupe, la musicothérapie, l'art-thérapie, le groupe combativité, et puis la thérapie individuelle avec son ou sa thérapeute personnelle. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est très chargé. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Il y a des moments où on se heurte à un mur et tout s'écroule. Et dans ces moments-là, parfois on se dit « je laisse tomber, j'ai plus envie de remonter encore la pente ». Mais c'est pas une option. Alors on poursuit l'effort en se disant qu'à un moment donné, on va retrouver une vraie stabilité.
Imaginez qu'une montagne s'effondre en enterrant vos pensées. On bloque et on relâche.
La concentration dont il faut faire preuve à ce moment-là, elle apporte un soulagement incroyable parce qu'elle offre un espace loin de ces pensées qui nous tourmentent. On se dit, en fait, ça existe cet état. Je peux y arriver.
Des recherches récentes ont montré que quand on se bagarre, on libère de l'ocytocine, l'hormone de l'amour ou de l'attachement, qui permet de créer des liens étroits. Tout à coup, grâce au groupe, les personnes qui ont le sentiment d'être dans un immobilisme total du fait de leur dépression comprennent qu'elles peuvent faire bouger les choses, qu'elles peuvent avoir un effet sur leur environnement.
J'ai adoré les séances de combativité.
1, 2, un crochet, j'accompagne, j'esquive et je me replace. 1, 2, la garde.
On se rend compte que, même quand on est au fond du trou, on peut voir revenir des forces qu'on croyait avoir perdues depuis longtemps. On sent monter un flux d'énergie et pour la première fois une forme de colère.
Selon certaines théories, la dépression est une forme d'agressivité retournée contre soi-même. Avec le groupe combativité, on essaie de mobiliser l'énergie agressive et de l'extérioriser.
Bien, et on continue. Un, deux... Le genou.
Je suis très en colère contre cette maladie, parce qu'elle me prive de beaucoup de choses et me pompe toutes mes forces. Peut-être qu'au cours de ma vie, il m'est arrivé d'avoir des problèmes avec des gens et que je ne me suis pas autorisée à être en colère. Et là, il faudrait que je dise un grand « va te faire foutre » à la maladie.
Tu... Ne mourras pas.
Super.
Pour moi, en dépression, on peut pas être créatif. J'étais encore un peu réticente sur prendre un traitement long terme. J'avais dit, mais si là, je retrouve mes sentiments, vous allez quand même pas me les couper, quoi. Et ils m'ont dit, mais non, vous inquiétez pas, on coupe que ce qui dépasse trop et ce qui descend trop.
Tellement envie de rien faire.
Quand j'ai un petit down, quand j'ai des doutes, je vais appeler, je vais leur dire, bon ben, faites une prise de sang, et je vérifie, ils me font, non, mais là, c'est nickel pour la dépression. L'alcool, c'est le pire des dépresseurs. Donc ça, c'est pareil, j'avoue que ça a été un peu un deuil quand mon psychiatre m'a dit, là, on ne peut plus boire quotidiennement comme avant, on ne peut pas aller dans des bars tous les jours, on ne peut pas... j'étais là, mais j'ai 27 ans, c'est horrible de me dire ça, je suis française. J'ai toujours peur que ça recommence. Mais je sais que, mine de rien, je suis protégée par mon lithium. Je peux aller down, je peux aller dans le bas. Je sens que je suis dark à l'intérieur. Il faut clairement que je travaille, moi, le côté... que je fasse une psychothérapie, etc. C'est un peu ce qui me manque, là. Mais par contre, sur tout le reste, je suis hyper... je sais que ça va, parce que je prends mes traitements et je fais gaffe, quoi. Je fais vraiment attention.
Quand ça va vraiment pas du tout, je vais en forêt pour sentir la vie. Pour me dire, voilà, c'est ça la vie. Être là, tout simplement, soit en tant que personne. Je me rendais pas compte à ce moment-là que je vivais dans une sorte de brouillard. Je peux dire aux gens qui sont seuls dans le noir et qui pensent que tout va s'arrêter là, que si, on peut s'en sortir. La vie mérite d'être vécue. Vraiment.
Si on a perdu le goût de toutes les choses, ça va pas revenir comme ça du jour au lendemain. Ça va revenir très progressivement. D'abord avec une intensité de plaisir qui est plutôt faible. Et c'est vrai, je comprends complètement que les patients peuvent être déçus des traitements dans une certaine mesure. En général, ils sont contents au départ parce qu'ils ont le soulagement, c'est-à-dire qu'il y a une suspension des émotions très négatives, donc ça leur donne un répit. Les capacités attentionnelles, mnésiques, etc., ça peut être aussi un peu plus de temps à revenir. Et c'est vraiment la question de 4, 6 mois, 9 mois hein, quand même. Il faut le faire en donnant du temps au temps et sans vouloir à tout prix s'exposer à des situations en se disant « Oh là, je ressens toujours pas de plaisir, c'est une catastrophe. » Non, c'est des choses qui reviennent doucement. Donc c'est une patiente rééducation aux choses de la vie.